les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Elsa Savouré, avocate, dessine les contours des droits de l'homme au sein de l'entreprise. Cinquième épisode. Entreprise et droits de l'homme, du droit souple au droit dur.
Bonjour à tous. Dans ce dernier épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Brabant, avocat, associé et dirigeant de la pratique entreprise et droits humains du cabinet Herbert Smith Freehills.
Bonjour.
Bonjour Stéphane. Alors Stéphane, vous êtes impliqué depuis plus de 10 ans sur les questions relatives aux entreprises et aux droits humains. Vous avez été impliqué aux côtés du professeur John Ruggie lorsqu'il développait les principes directeurs des Nations Unies. Nous travaillons aussi ensemble pour conseiller les entreprises et les différentes parties prenantes sur ces questions entreprises et droits humains. Vous avez donc vu le domaine évoluer au cours de ces dernières années, en même temps que le rôle des avocats et des juristes se transformer. Pouvons-nous considérer, pour commencer, que le domaine des entreprises et des droits de l'homme relève du droit mou, qu'on peut aussi appeler le droit souple ?
Oui, le droit mou, pas si mou que ça, ce droit en question. Je sais que certains préfèrent parler de droit mou, et notamment notre amie Sandra de Sherpa, qui préfère cette référence au droit mou, parce qu'elle considère ce droit, effectivement, est vraiment trop mou, alors que j'aurais préféré, comme d'autres, parler d'un droit plutôt souple, c'est-à-dire qui s'adapte. Et il n'est pas mou, et il n'est certainement pas mou parce qu'on observe qu'il y a de plus en plus de sanctions. Et j'ai écouté certaines des émissions précédentes que vous avez animées, avec beaucoup de brio et de pertinence d'ailleurs, et je relevais qu'effectivement vous aviez vous-même cité toutes ces sanctions auxquelles les entreprises étaient exposées en matière financière, en matière sociale, en matière d'emploi, en matière, dans toutes les matières réputationnelles et autres. Donc on voit bien que ça n'est pas un droit mou, mais plutôt un droit souple. Alors, pour ajouter un petit peu de commentaires sur cette nature du droit, au demeurant, il était souple parce qu'à l'époque, avec le professeur Ruggie et les entreprises et les différentes personnes avec lesquelles on avait travaillé sur ce texte, préférait, et c'était plus simple d'avoir un texte de base, les principes directeurs, qui soit effectivement adopté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, plutôt qu'un traité. Mais vous savez aussi qu'à l'heure actuelle est négocié ou est discuté le principe d'un traité. Deuxièmement, sur la base de ce droit dit souple, se sont construits, et Élise Groulx l'a magnifiquement expliqué dans son exposé, au travers de la galaxie des différentes réglementations, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de nombreux textes qui sont en train d'apparaître dans différents pays, et que donc, à côté de ce droit souple, qui est une base en fait, c'est une base pour construire le droit positif, pour construire le droit dur, que l'on voit de plus en plus maintenant au travers le monde.
Ce droit, il devient aussi de plus en plus dur parce qu'il y a des sanctions qui sont attachées. Et des sanctions aussi qui sont prononcées par ce que vous appelez les nouveaux juges.
Tout à fait. Et c'est une expression qui m'est très chère, puisqu'on parlera peut-être tout à l'heure du rôle des avocats. Et cette expression prend toute son ampleur. En effet, aujourd'hui, les entreprises, et on l'a vécu nous-mêmes, des entreprises qui nous disent « mais où sont nos avocats quand on doit parler de cette matière-là » Parce que trop de juristes veulent rester dans leur pratique professionnelle à l'interprétation stricte de la règle de droit telle qu'elle est rédigée, de la loi, du décret et autres. Alors que les entreprises, comme vous le soulignez très 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 justement, font face à des sanctions qui peuvent être extrêmement dures. Et j'avais écrit un article en anglais qui s'appelait « Soft Law but Hard Sanctions », et c'est le cas. Et ces sanctions, qui sont des sanctions financières, qui sont des sanctions d'accès au crédit et au financement, des sanctions aussi de jeunes, à l'heure actuelle, qui cherchent des emplois et qui préfèrent aller dans des entreprises qui respectent les droits humains plutôt que celles qui ne les respectent pas. Je ne donnerai pas de nom à la radio, mais c'est extrêmement frappant. Et donc, les consommateurs aussi, qui sont aussi ces nouveaux juges. Et la réalité, c'est que des entreprises aujourd'hui, on le voit dans la vie de tous les jours, les entreprises savent ces sanctions qui peuvent être très dures à leur égard, Et c'est la raison pour laquelle elle se méfie des nouveaux juges. D'autant que ces nouveaux juges, à la différence des juges traditionnels, il n'y a derrière leurs décisions aucune cour d'appel.
Alors, vous exercez aussi depuis 30 ans le métier d'avocat de projet, c'est-à-dire que vous conseillez notamment les entreprises sur la mise en place juridique de leurs projets en matière d'énergie, d'infrastructure et y compris dans les industries extractives. Vous avez donc vu comment les entreprises intègrent de manière croissante les droits de l'homme dans leurs activités. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur justement cette évolution et sur le fait aussi qu'elles prennent de plus en plus conscience que les nouveaux juges sont présents ?
Alors c'est frappant. Effectivement, j'ai commencé à m'intéresser à cette matière, étant avocat notamment spécialisé sur des projets en Afrique, avec l'Afrique. Et j'ai vu en Afrique des situations de non-respect des droits fondamentaux, des droits de l'homme, chez les villageois, dans les communautés locales, sur certains chantiers, qui me paraissaient absolument dramatiques. Et donc je m'y étais intéressé il y a plus de 10 ans. Donc c'était à l'époque de l'adoption, bien avant l'adoption des principes directeurs des Nations Unies, suivi de l'OCDE. Et figurez-vous qu'il y a même eu des cas d'entreprises qui ont téléphoné au cabinet dans lequel je suis, pour dire, écoutez, c'est très simple, si Stéphane Bravant continue à s'occuper du respect des droits de l'homme par les entreprises, eh bien, on vous quitte comme client. On ne sera plus client chez vous. Donc, vous vous rendez compte que... Donc, je suis toujours là. Donc, j'ai décidé, en réalité, de rester et de persévérer pour expliquer aux entreprises quelle était l'importance de respecter ces principes. Et vous avez une invitée, Charlotte... Mission qui a très bien développé ce sujet. Toujours est-il qu'on observe que depuis 10 ans, au moment où je m'intéressais à ces principes, et aujourd'hui, mais quelle différence ! Aujourd'hui, il n'est plus une seule entreprise qui ne soit pas au moins sensibilisée par ces principes. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de beaucoup de progrès à faire sur le plan de l'application de ces principes, de leur mise en œuvre, mais aujourd'hui, en 10 ans, considérer qu'un tel changement d'état d'esprit pour les entreprises a pu se réaliser est quelque chose d'absolument remarquable. Donc, il y a des progrès qui devront continuer à être faits, mais aujourd'hui, très bons résultats.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, brefs, de dossiers sur lesquels vous avez travaillé en matière d'entreprise et droits humains ?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je travaille beaucoup dans les matières extractives et en matière d'infrastructure, plus particulièrement sur le continent africain, mais pas seulement, notamment quand ça concerne les droits de l'homme, puisque j'ai été amené à conseiller des entreprises dans des projets, par exemple, d'hydroélectricité au Brésil, dans d'autres projets miniers en Amérique du Sud. Ça a même été dans des projets dans des pays d'Asie ou du Moyen-Orient. Et c'est vrai qu'on est très appelé, par exemple, dans les impacts négatifs ou les violations de droits, notamment des communautés locales. Je pense notamment dans les cas d'expropriation et nécessite de notre part très souvent une intervention pour replacer le débat sur un plan qui peut être aussi juridique. Car quelquefois, on s'aperçoit que de nombreux consultants de très très grandes compétences vont donner des conseils pratiques, et c'est bien, c'est très utile, c'est ce qu'il faut faire. Mais notre rôle d'avocat, peut-être qu'on va y arriver, est aussi un rôle juridique. Et on doit replacer le débat aussi dans le règle de droit, que ce soit du droit souple ou que ce soit du droit dur. J'ai beaucoup d'exemples à citer, mais ça ferait l'objet peut-être d'une autre émission, si vous le voulez bien.
Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut en tous les cas, de manière plus globale, voir quel est le rôle des juristes et des avocats dans le domaine.
Alors, le rôle est fondamental. Je sais que parmi les auditeurs, il y a des juristes et des non-juristes, des avocats et d'autres personnes intéressées par cette matière. C'est vrai que les avocats ont un rôle fondamental à jouer. Il est tout de même de notre âme de devoir défendre les droits fondamentaux. Et que l'on soit, évidemment, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme, mais qu'on soit aussi un avocat de droit des affaires, de droit du travail, de droit fiscal. Figurez-vous, par exemple, que certains commentaires d'institutions financières internationales ont soulevé le fait que de trop gros avantages fiscaux, par exemple, donnés à une entreprise, peuvent être le début d'un non-respect de droits fondamentaux parce que ne permettent plus aux États de pouvoir faire face à leurs dépenses de santé ou d'éducation qui sont des droits fondamentaux eux-mêmes. Donc je voudrais insister de façon très brève pour dire que c'est le rôle des avocats est absolument primordial et je dois ajouter que le rôle des avocats maintenant évolue. Ce n'est plus que c'est bien sûr l'interprétation du droit, c'est notre métier de base. Mais c'est le droit souple aussi, et nous devons aller, comme disent les Anglais, « out of the box », et c'est quelque chose qui est attendu par les entreprises, c'est que nous apportions des avis sur ce droit pour lequel, comme on l'avait dit tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup de conséquences. Donc, je vais reprendre mon introduction, « droit souple » ou « droit dur », c'est du droit, et c'est donc certainement des matières pour tous les avocats. En plus, les droits fondamentaux sont très transversaux, comme nous le savons tous. Ils atteignent toutes les branches du droit, et donc tous les juristes doivent s'intéresser à cette matière et être au moins sensibilisés à l'occasion des avis et des conseils et de leur assistance à leurs clients.
Merci Stéphane. Je pense que je n'aurais pas pu mieux conclure cet épisode. Nous arrivons à la fin de ces podcasts et je remercie tous les intervenants et les équipes d'Amicus Radio pour leur implication. J'espère que ces podcasts auront permis à nos auditeurs d'avoir un aperçu sur un sujet en pleine évolution qui est de plus en plus au cœur de l'actualité et qui contribue, je le crois, à façonner avec la lutte contre le changement climatique ce que seront les entreprises de demain. Merci beaucoup.
Les amphis d'Amicus. Cet épisode des Amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasnier. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.